Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Jouffroy.
À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Théophile Gautier, le livre de Stéphane Guégan rend justice à ce prince de la République des Lettres. Rend justice, oui, parce que ce prince fut un peu oublié au XXe. L'ouvrage, intitulé Théophile Gautier, est une fresque de 700 pages. Il fallait bien ça pour évoquer Gautier romancier, journaliste, critique d'art et Gautier poète. Marc Fumaroli et Stéphane Guégan sont avec nous, en communion avec Gautier Spirit peut-être ?
Avec son esprit, j'espère, oui. Il est là parmi nous.
Tout à fait.
Marc Fumaroli est membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et Stéphane Guégan, spécialiste du 19e français, conservateur au musée d'Orsay et commissaire de l'exposition Manet, inventeur du moderne au Grand Palais ce printemps dernier. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci de votre visite. Marc Fumaroli, dans Paris, New York et retour, vous avez cité Théophile Gautier, entre autres écrivains du moment, en évoquant, je vous cite, le couple peintre-poète critique d'art du 19e. Et puis dans un quotidien, dernièrement, vous avez salué l'ouvrage de Stéphane Guégan. Qu'est-ce qui, dans ce livre, dans cette somme sur Gautier, vous a le plus touché, vous qui êtes écrivain, critique d'art et photographe-poète à vos heures?
Poète, non, mais...
Photographe-poète.
Photographe, oui. Non, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'abord l'ampleur de la fresque, parce qu'effectivement, vous avez cité plusieurs facettes de Gautier. Vous avez peut-être oublié une, qui est le voyageur.
Les
récits de voyage de Gautier sont, à mon avis, un des morceaux les plus remarquables de son œuvre. Donc, c'est un géant, avec tant de dons, tant de capacités de passer d'un genre à un autre... Un géant qui est à l'origine un poète, essentiellement un poète, mais dont la poésie, en quelque sorte, s'est épanchée dans des genres et sous des formes très différentes. Et puis, je lui suis reconnaissant, à Stéphane, d'avoir donné toute sa place à Gautier, journaliste. Et je trouve le plus bel hommage que l'on puisse rendre à la France du milieu du 19e siècle, c'est d'avoir accordé dans ses journaux tant de place à des poètes de la stature de Gautier et d'avoir en quelque sorte une bourgeoisie qu'on a beaucoup calomniée par la suite, qui était capable de lire, d'attendre régulièrement les articles de Gautier et de se fier en grande partie à lui. Bien sûr, il y a eu une bourgeoisie qui s'est tournée vers les pompiers, qui a eu un certain mauvais goût, mais enfin, malgré tout, les grands patrons de presse de l'époque ne s'y sont pas trompés. La qualité de la prose de Gautier et l'autorité qu'il avait conquise sur le beau en a fait une des grandes vedettes d'un maître à penser, un maître à sentir, un maître à goûter de la France d'avant Baudelaire, si vous voulez, ou en tout cas presque contemporaine de Baudelaire.
Mais Gautier et Stéphane Guégan est non seulement un maître à penser, à ressentir, un maître à vivre, un maître gourmand de tout.
Oui, oui, gourmand.
Et ça aussi, c'était accepté dans cette fameuse société que l'on disait Louis-Philippard ou Napoléon III. Les gens aimaient ça.
Bien sûr, c'était un grand moment de vie, un grand moment de fièvre intellectuelle, créatrice. Et Baudelaire, qui n'a pas connu vraiment ces années-là, le dira plus tard. Il a presque la nostalgie des années de Louis-Philippe. Et il rend hommage même au musée de Louis-Philippe, à la Galerie Espagnole. C'est un moment particulier que les années 1830-40, dont effectivement Gautier est à la fois l'acteur et l'un des meilleurs témoins. C'est très vite l'un des jeunes romantiques, l'un des jeunes loups du romantisme qui émerge au milieu des années 30. Et Émile de Girardin, dont on vient au fond d'évoquer le souvenir...
La clairvoyance.
L'homme de la presse.
La grande presse. La presse de masse.
Il a inventé la presse de masse. C'est-à-dire qu'il a adopté le modèle britannique, il l'a adapté à la presse parisienne avec génie. Et il fait venir Dumas, Gautier, Victor Hugo, qui est son ami. Donc le romantisme finalement, entre dans les mœurs, dans les années 1830-1840, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, hein, d'un règne de Louis-Philippe qui serait hostile donc à la nouveauté. Et Gautier est au cœur de tout ça. Et j'ai souvent parlé de ça avec Marc Fumaroli. Il va devenir très vite un arbitre du goût, une sorte de surintendant officieux des arts dans tous les aspects que ce mot revêt, de la danse à la peinture, de l'écriture à la musique.
Et au théâtre.
Le théâtre qui a une présence dans la société de l'époque égale aujourd'hui à celle du cinéma et de l'opéra.
Et de la télévision.
Malheureusement. Malheureusement.
Mais vous avez aussi rendu hommage, je crois, peut-être insuffisamment, on ne peut pas évoquer tout, mais à la place centrale que la danse joue dans dans la pensée la plus profonde de Gautier. Elle joue ce rôle dans sa poésie, elle joue ce rôle dans sa critique. Il a été un admirable critique chorégraphique. Il a aussi écrit parmi les plus célèbres ballets du monde.
Gisèle.
Et puis, sa vie a été, la vie privée, sa vie personnelle,
entourée de ballerines,
a été entièrement, ou presque entièrement, dominée par des figures de cantatrices, aussi de ballerines. Peut-être la plus dramatique histoire d'amour, c'est celle qu'il a eue avec
Carlotta.
Avec Grisi. Carlotta Grisi, dont il a fait un des plus beaux récits. Un de ses plus beaux récits, qui est Spirit.
Bien sûr. Non, il appartient à cette famille de grands écrivains français fascinés par la danse. C'est Cocteau, c'est Mallarmé, c'est Céline. Et d'ailleurs, j'aurais pu le mentionner. Le premier livret que Céline élabore est une paraphrase de la Gisèle de Gautier. Ce qui veut dire qu'un siècle après les romantiques, ce modèle est encore vivant, il est encore productif. Effectivement, la danse est partout. Et j'ai essayé de montrer, en revenant sur ce massif qu'est le journalisme de Gautier, que les plus grands représentants de la danse, de la musique, de la littérature sollicitent son appui.
Oui, il y a des demandes. N'oubliez pas, s'il vous plaît.
Voilà. Alors la fameuse bienveillance qu'on reproche à Gautier, au fond, elle s'est exercée sur le meilleur de son époque.
Un point aussi que vous avez bien mis en évidence et qui est un peu oublié, c'est qu'avant les Goncourt, Gautier et ses amis de Jeune France ont renoué, par-delà le gouffre, si j'ose dire, de la Révolution,
le 17e.
Du Consulat et de l'Empire, avec le 18e, avec le Rocaille, avec Watteau, avec les grands peintres et les grands ornemanistes et les grands architectes de l'époque Louis XV. Or, me semble-t-il, ce qui caractérise le Rocaille, c'est son esthétisme. Ça n'est plus du tout un art qui se prétend donner des normes morales ou des normes civiques ou des normes héroïques à la vie des spectateurs, mais qui les encourage au bonheur.
Bien sûr.
C'est un art du bonheur. Et il est très extraordinaire de penser que, comme dans l'éternel retour de Nietzsche, il y a chez Gautier et chez ses amis, parce qu'il n'y a pas seulement Gautier, vous montrez combien il était lié à Nerval, combien il était lié à toute une pléiade, en fait, d'artistes et de peintres et de poètes remarquables. Ils en sont venus également à mettre, en quelque sorte, à confondre le beau avec le bon, et à chercher dans la beauté le secret de la norme éthique. Et alors il y a cette phrase extraordinaire que j'aime à citer, celle de la préface de Maupin, « La jouissance me paraît le seul but de la vie et la seule chose utile au monde. » Et c'est une phrase qui a profondément choqué le plus grand des écrivains américains, c'est-à-dire Henry James, qui, dans un texte publié par Paolo Tortonese récemment dans une petite collection, mais qui est très précieuse, s'irrite contre l'immoralisme de Gautier, le fait que c'est un artiste qui oublie, en quelque sorte, que l'art doit servir, doit offrir des normes de conduite. Et pour un homme comme James, qui a quand même vécu à Londres, longuement à Paris, qui est pénétré d'Europe, il n'en reste pas moins que c'est une morale de western. En fin de compte, ne l'abandonne pas.
Ouais. Je disais tout à l'heure le 17e parce que j'avais pensé qu'il y avait une filiation avec Théophile de Viau et ouais. aussi Saint-Amand, un Bien des sûr. Premiers académiciens. Bien parce qu'il y avait aussi cette gourmandise oui. et ce goût du plaisir.
C'est absolument. Le goût mousquetaire.
Oui, dire La Fontaine aussi.
La Fontaine, aussi.
Oui, mais c'est un filon au 17e siècle. C'est un filon.
Plus.
C'est un filon très fragile. Ouais. Alors que sous Louis XV, ça devient presque l'art officiel. Ça a envahi Versailles, ouais, ça a envahi les petits châteaux que fait construire Louis XV pour Madame de Pompadour, pour Madame du Barry. Et puis les Goncourt vont reprendre cela superbement, en achevant en quelque sorte la réhabilitation de Gautier.
Oui, vous avez raison.
Alors si on parlait un peu du Gautier poète,
oui.
parce que Emo et Camé... Oui, mais qu'est-ce que...
Albertus moins,
Albertus
les poésies
moins,
la comédie
avec
la
des
mort.
Noms parfois imprononçables.
Bien sûr, volontairement.
Oui, hein. parce qu'il a ce côté toujours à double face.
Oui, effectivement, le Marc Fumaroli l'a dit dans la chronique que vous avez mentionnée, on a fini par oublier la place, l'autorité, qui était celle de Gautier dans le monde de la poésie jusqu'au début du XXe siècle.
Ben moi, j'ai appris beaucoup de poèmes de Gautier à l'école.
Ouais.
Hein. Dès la fin des études primaires, on apprenait des poèmes de Gautier, et alors en plus fort raison, au lycée. Et je trouve que s'il y a quelque chose encore à faire, parce que vous ne pouviez pas tout faire et que, effectivement, vous avez été un grand biographe, vous ne pouvez pas vous attarder sur chaque œuvre, bien que vous ayez dit des choses très fortes, par exemple sur Spirit, mais il me semble que le Gautier poète mériterait d'être réhabilité à plus à fond, d'autant que c'est quand même à lui que Baudelaire a dédié Les Fleurs du Mal. Alors là, il y a une véritable dynastie poétique qui inaugure la poésie française de la fin du 19e et du 20e d'une manière somptueuse. Et donc Gautier était un père, en quelque sorte, beaucoup plus que Hugo, à certains égards, qui est d'une grande singularité. Personne ne peut rivaliser avec Hugo, même Claudel.
Et pourquoi a-t-il été un petit peu oublié, alors ?
Ben, je pense que c'est justement parce que, à cause de ce fameux poème programmatique, si vous voulez, des mots écamés, où il dit, où il prononce ces phrases fatales, « Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle, vert, marbre, onyx, émail, point de contrainte fausse, mais que pour marcher droit, tu chausses, muse, un cothurne étroit, fille du rythme commode. » Vous voyez, là, la morale est la plus exigeante. C'est une morale janséniste, mais elle est purement esthétique. Alors c'est cela qui rend les gens malades, parce que comment peut-on être
Scandale
à la fois...
Scandale Gautier.
Oui, comment peut-on unir les contraires à tel point et donner des leçons aussi méphitiques aux populations ?
Vous parliez de James, et on pourrait dire que l'enseignement de la littérature s'est un peu américanisé tout au long du XXe siècle, et qu'un écrivain comme Gautier devient indésirable, il devient inclassable, il est immoral au regard de la, si j'ose dire, de la morale normale, de la morale publique. Et puis, on a fini par oublier qu'il y avait chez lui un côté apollinaire, par exemple, dans certains poèmes des Mots et Camé. On a même presque, et Gide le dit d'ailleurs, on a même presque pensé que la dédicace des Fleurs du Mal en 1857 est presque ironique. Qu'on flatte un écrivain qui est proche du pouvoir, proche de la princesse Mathilde, au lieu de saluer un écrivain, au lieu de saluer un grand poète. Mais quand vous comparez, par exemple, la Comédie de la mort et les Fleurs du Mal, vous sentez les filiations. Vous sentez que Baudelaire a lu et relu cette poésie. Et puis, il y a tout un pan qu'on ne lit plus, et dont Manet, puisqu'on parlait de Manet, était friand, sont les Parnassiens, autour de Mallarmé. Alors là, Gautier le dieu.
Eh oui,
et on l'idolâtre. Donc il faut effectivement réécrire l'histoire de la poésie des 19e et 20e siècles.
Et il faut le réécrire peut-être en contrepoint avec James, avec toute la tradition littéraire américaine qui s'efforce de se libérer de ce profond moralisme de la nation, si j'ose dire, qui fait son orgueil, qui fait sa force, mais qui en réalité y revient toujours et s'appuie là-dessus pour se justifier auprès du grand public.
Oui, oui.
Que le grand public, évidemment, est tout à fait affamé de cette idée que la littérature, la poésie, les arts ont une fonction, ont une utilité, ne serait-ce que de comment dirais-je, d'occuper les loisirs des populations.
Sainement.
Sainement, oui. Sainement.
Mais si on se tourne vers les Anglais, et notamment les Anglais ou les Américains de Londres, si j'ose dire, Wilde, Ezra Pound, tous ces T.S. Eliot, tous ceux-là ont, eux, ou Swinburne le premier, tous ceux-là ont adopté Gautier. C'est-à-dire qu'au moment où
ils ont même trahi
exactement le puritanisme
pour,
local
pour passer chez
pour passer
chez
l'ennemi.
Ces maudits français
pour passer à l'ennemi,
ces horribles français. Alors,
et c'est un transfert, et c'est un phénomène inverse au nôtre. La Troisième République, pour toutes sortes de raisons, répudie Gautier, alors qu'au même moment les Anglais l'adorent. Et Gautier est très présent dans la poésie de Pound, de Wilde, de tous ces écrivains qu'on dit décadents, mais qui sont avant tout, au fond, des émules de la poésie française. Et ils mettent sur le même plan Gautier et Baudelaire, comme Mallarmé d'ailleurs le fait.
Alors il y a un point qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu encore, mais je suis subodore un peu son contenu. Bernard Vouilloux vient de publier un livre sur cette espèce de confusion qui s'est produite en France et qui ne s'est produite qu'en France entre littérature et peinture. C'est un peu le reproche aussi que James fait à Gautier. Mmh. Il est trop peintre, il décrit tout le temps. Et donc, il ne porte pas de jugement.
Oui.
Décrire, c'est une attitude esthétique qui est délétère, parce qu'elle n'aboutit pas à une conclusion. Elle ne nous oriente pas pour nous dire ce qu'il faut faire,
ce qu'il faut penser. Vous avez raison.
Et donc, la littérature française, c'est vrai, de plus en plus à coquiner, si j'ose dire, avec la peinture, pour dépasser ce point de vue utilitaire, ou ce point de vue propagandiste, ou ce point de vue publicitaire, ou ce point de vue politique, qui l'embarrassait. Et elle a atteint, effectivement, un degré de... Ça se voit chez Valéry. Même Valéry, qui n'est pas un grand sensuel, prend la peinture comme référence. Degas est son dieu. La vraie, véritable référence de la poésie chez Valéry, c'est à la fois Mallarmé, bien sûr, mais c'est aussi Degas. Et là, on peut penser aussi à Aragon avec son Matisse roman, c'est extraordinaire.
C'est un grand livre.
C'est un texte fabuleux.
C'est meilleur. Ouais.
Et là, on a vraiment une tradition qui est purement française. Et en même temps, c'est pas un propos nationaliste ni patriotard. C'est simplement que cette littérature, poésie, peinture est très ouverte sur le monde. Elle a ouvert au XVIIIe siècle, pendant la période Rocaille, elle s'est ouverte à la Chine, elle s'est ouverte à la Turquie, au XIXe siècle, elle s'est ouverte à travers Gautier. Elle s'est ouverte d'abord à l'Espagne, hein. L'Espagne est capitale. Oui. La découverte de l'Espagne, c'est le grand fait du XIXe siècle en France. Et puis, elle s'est ouverte au Japon. Et puis, elle s'est ouverte à l'Orient. Elle s'est ouverte, enfin, au monde. Elle est devenue... Elle a un caractère mondial et en même temps, elle a des caractères spécifiquement parisiens, ouais, si j'ose dire, ouais, qui réunissent là encore des contraires et qui font que Gautier est au cœur de ce processus.
Vous avez raison. Et d'ailleurs, quand Baudelaire lui-même rend hommage à Gautier dans le fameux article qui devient une plaquette en 1859, il dit de Gautier qu'il a un goût cosmopolite, qu'il a brisé avec l'idée d'un beau unique. Ce qui intéresse bien sûr Baudelaire, mais il attribue au fond cette idée aux articles de Gautier qui ont parlé de tout. Les expositions universelles, très tôt, lui ont permis d'avoir accès à l'esthétique même de l'Orient, pas simplement le rêve oriental. Et puis, on vient de le rappeler, l'Espagne. Les quelques mois qui passent en Espagne, quand vous relisez ce texte qui a été lu par tout le 19e siècle, jusqu'à Huysmans et d'autres, on s'aperçoit que les impressions du voyageur comptent autant que la description du grand baroque espagnol, de cet hyper-réalisme du XVIIe siècle qui fascine Gautier.
Est-ce qu'il avait vu la collection de Louis-Philippe avant d'aller en Espagne ?
Oui, non seulement il l'a vu,
parce
mais il est là au moment.
Malgré tout, on sent très bien que c'est grâce à Zurbarán, c'est grâce à Velázquez, c'est grâce à Valdés Leal qu'il peut voir l'Espagne comme il la voit.
Bien sûr, bien sûr. Il est même là, il le raconte dans un article, au moment où les caisses arrivent au Louvre et on sort les tableaux et on lui demande, Girardin lui demande de faire un article immédiatement sur cette galerie espagnole. Non, on peut comprendre aussi pourquoi Manet a tant lu Gautier.
Oui.
Il a connu l'Espagne,
grâce à lui.
À travers Gautier avant d'y mettre un pied en 65. Et comme je le rappelle dans un des derniers chapitres du livre, c'est précisément Gautier, il n'y a pas de hasard, qui lance la carrière de Manet en 1861 devant le chanteur espagnol parce qu'il y reconnaît ses propres valeurs. Il sent qu'il y a un lien. Et non, il n'y a pas de rupture entre la génération de Manet et la sienne. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, il passe pour une sorte de Goethe universel.
Avec de l'humour.
Avec de l'humour, mais Goethe en a eu. Et puis...
Un peu moins.
Un peu moins, sans doute. Et touchant à tout. Touchant à tout avec la même, la même hardiesse.
C'est
la
vrai, la comparaison avec Goethe est très bonne. Et surtout au dernier Goethe, voilà. le Goethe des conversations voilà. avec Eckermann.
Exactement, libéré de tout.
Mais malgré tout, comme le disait Nietzsche, il y a toujours une petite, un petit nœud dans les cheveux de Goethe qui rappelle qu'il est un bourgeois de Francfort. Alors que chez Gautier, on a l'impression vraiment qu'il est artiste des pieds à la tête.
Oui.
C'est un, il est né tel et il n'a fait que croître et embellir dans cette dimension-là, avec justement cette générosité qui a peut-être manqué à certains de ses héritiers tardifs, c'est de ne pas... Et d'ailleurs, Baudelaire a fait la même chose. Il y a un salon de Baudelaire où il dit « Mais non, il ne faut pas être anti-bourgeois. Il faut conquérir les bourgeois. Il faut les avoir de notre côté. Ils ont de solides qualités. » Et quand Gautier utilise, ce que lui reproche d'ailleurs Henry James, des lieux communs, c'est parce qu'il veut... Effectivement, que construire justement une sorte de dépassement vers la suprême beauté, vers Spirit, qui est une espèce de véritable transcendance à la fois des sexes et du beau, eh bien là, effectivement, il faut partir quand même d'une certaine adhésion avec un large public. Et donc, il est très généreux. Il est peut-être beaucoup plus démocrate que bien des apologistes de la culture depuis, qui veulent tantôt initier les gens à des choses tellement raffinées que ça les décourage, ou alors leur offrir du kitsch parce que c'est tout ce qu'ils sont capables d'approuver. Là, il y a une juste mesure.
Une juste mesure.
Chez Gautier, qui est extrêmement généreux.
Mais il est très tolérant quand il ne comprend pas très bien les impressionnistes.
Oui.
Et il dit, il est probable que les tableaux de Courbet, Manet, Monet et tutti quanti renferment des beautés qui nous échappent à nous autres, chevelures romantiques déjà mêlées de fils d'argent et qui sont parfaitement sensibles aux jeunes gens à veston court et à chapeau essimé. Tout Gautier est là. Tolérance, compréhension.
Libéralité du cœur et de l'âme, c'est sans doute aussi ça qui le rapproche d'un Apollinaire, par exemple, pour la critique d'art, capable d'admettre des esthétiques très différentes et capable même de s'intéresser à des choses qui le dépassent. Hein, il le dit finalement à la fin des années 60. Mais quand on regarde de près, c'est bien sûr ce que j'ai essayé de faire. Quand il est au cœur même du processus, au cœur du jury par exemple, il est là pour dire « Jeunes gens, exposez vos tableaux
oui. ». Hein, et quand il va à Crystal Palace, à Londres, ce qui le révulsait, il a trouvé l'esthétique de la nouveauté, il reconnaît que le progrès, il va falloir y aller.
Oui, parce que son rapport au progrès est complexe, il est toujours double. Il a bien compris l'architecture moderne,
oui.
Il est le premier à en parler, l'esthétique de la locomotive. C'est les conséquences du progrès, c'est le nivellement démocratique, c'est le nivellement de la culture.
Et là, il est impitoyable.
Ah, il est impitoyable.
Là, il est très violent.
Et de ce point de vue-là, il est bon de le relire aujourd'hui.
Oui.
Ça s'applique parfaitement à notre époque.
Très bien, merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Merci.